les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Michel Vinaver, au théâtre, notre historien.
Madame, je vais être simple et c'est un peu délicat. Est-ce que vous avez toujours envie de faire, pardon si je reviens là-dessus, de faire à votre fidèle et dévouée Patrice de Maistre, à votre gestionnaire de fortune, mais mon nom ne doit apparaître nulle part, un cadeau.
50 ans de théâtre et de théâtre d'actualité, comme il aime le dire. Dans sa dernière pièce actuellement représentée à La Colline, à Paris, on entendait Monsieur de Maistre, Michel Vinaver se nourrit de la chronique de l'affaire Bettencourt. Bettencourt Boulevard fait référence à Sunset Boulevard, un hôtel particulier, la propriétaire, une vieille dame, décline, et autour d'elle, les familiers s'agitent comme dans un dessin. Il aime observer, Michel Vinaver, les sociétés et les entreprises en crise. C'est un auteur qui n'a pratiquement écrit que pour le théâtre, ce n'est pas si rare au théâtre, mais un auteur de théâtre qui a en même temps dirigé une grande entreprise pendant des lustres, c'est beaucoup moins fréquent. En plus, il n'en a pas été malheureux. Cela, c'est un motif d'étonnement dans le milieu culturel. Avec Vinaver, on peut parler justement du capitalisme. Le mot chez lui ne relève pas du vocabulaire idéologique. Il a vécu le système de l'intérieur, y trouvant des motifs d'excitation, de colère rentrée, d'ironie aussi. L'ironie, il y a du Charlie Chaplin et du Jacques Tati dans le théâtre de Michel Vinaver.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Bonjour Michel Vinaver.
Bonjour.
On a fait une rencontre quand vous êtes arrivé à la maison de la radio qui a du sens. Un jeune homme de 20 ans qui est à l'accueil à la maison de la radio est venu vous voir. Il vous avait entendu citer le nom de Camus. Et il s'est approché, comme vous, en 1946-1947, vous êtes aux États-Unis, c'est mieux pour une famille juive d'être aux États-Unis pendant la guerre qu'en France. Camus vient faire une conférence, et vous allez le voir, et vous piquez sa curiosité.
Je pique sa curiosité parce que je lui dis que je suis en train de faire un mémoire sur l'humour chez Kafka, mais également chez Camus. Je fais rejoindre les deux œuvres. Et là, après avoir essayé de se débarrasser de ma présence, vite fait, bien fait, cette relation entre Kafka et Camus, ça l'excite un peu et c'est le début d'une amitié qui va durer 10 ans. Je n'ai pas écrit ce mémoire en définitive.
Vous avez publié votre correspondance avec Camus, c'est aux éditions de l'Arche. On voit que Camus a décelé une promesse, mais qu'il ne transmet aucune doctrine à vous, Michel Vinaver. Vous lui reprochez parfois de manifester ses intentions un peu trop de manière univoque dans ses livres.
Il a été beaucoup plus fraternel que autoritaire. C'est un homme qui doutait de lui-même et qui doutait de sa façon d'organiser et sa vie et son écriture beaucoup plus qu'on imagine. Lorsque je lui ai fait part de ce qui me paraissait dommage dans son cas, qui était qu'il se sentait trop responsable de ce qu'il écrivait et que cela enlevait de la force à son écriture, plutôt que lorsqu'il faisait n'importe quoi avec son stylo, il m'a remercié de ma franchise et il m'a dit il va revenir au n'importe quoi dans les 2-3 ans.
Mais il s'essaye quand même à la légèreté, même si ses responsabilités, comme vous le dites, lui pèsent. Écoutez ce qu'il explique à Pierre Cardinal au milieu des années 50, quand il commence à lire d'ailleurs votre théâtre.
Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve et qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites?
Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur.
Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérait, ce qui est mieux. Il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, par compensation en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable enfer. Son mari avait le sacrifice voyant et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'il aime moins.
Ça vous étonne, cette tonalité de Camus ?
Ce qu'on vient d'entendre, c'est le procès de l'intentionnalité. Cet homme a péché par le fait qu'il voulait faire le bien. Je crois qu'il faut plutôt essayer de ne pas se poser trop ce genre de questions. Qu'est-ce que je dois faire ? Suivre plutôt ce qui se présente à soi comme n'étant pas nécessairement écrit à l'avance.
Alors justement, se présente à vous une opportunité de carrière, Gillette. Ce sera Gillette Belgique, Gillette Italie, Gillette France que vous allez diriger. Et quand vous dites à Camus, je vais entrer chez Gillette, il vous recommande d'y être heureux ?
Il me recommande surtout de garder un peu de temps pour faire autre chose que de m'occuper de lame de rasoir. Je crois qu'il n'a pas tellement bien compris que les lames de rasoir, ça aidait l'écriture. Ça aidait l'écriture parce que, d'abord, ce sont deux mondes totalement différents, celui d'une entreprise de grande consommation à l'échelle mondiale, et puis le travail qu'on fait chez soi, qui consiste à mettre des mots les uns devant les autres. Et il y a comme une sorte de vase communicant entre les deux sur le plan de l'énergie. On se ressource chez Gillette pour écrire et inversement.
Aurait-il compris que vous soyez émerveillé, je vous cite, de ce qui se passait dans cette entreprise et de ce qui passait de moi, Michel Vinavert, dans l'entreprise Gillette?
Ce qui m'a émerveillé en entrant chez Gillette et pendant les premières années que j'y ai passé, en fait j'ai passé 23 ans dans l'entreprise, c'est que j'avais l'impression d'entrer dans une église. Une église où il y avait et les dogmes et les pratiques. Par exemple, on n'avait pas le droit de pousser une barbe quand on travaillait dans la maison. Mais surtout, il fallait un certain esprit de révérence à l'égard du fondateur et inventeur qui s'appelait King Gillette, ne pas manquer de respect à l'égard de cette figure tutélaire. Moi, ça m'a émerveillé qu'il puisse y avoir des attitudes féodales dans une entreprise à la pointe de la modernité.
Deuxième figure tutélaire, Roland Barthes, que vous rencontrez à l'occasion des représentations de votre première pièce, 1956, ça fait un bail, Les Coréens. Les Coréens, ça se passe après la guerre de Corée. La représentation, ça concerne la vie pendant la guerre de Corée. Et les uns et les autres vous reprochent de ne pas avoir marqué d'intention, justement, assez nette idéologiquement. Roland Barthes vous défend.
Roland Barthes a écrit un texte pour défendre les Coréens contre les critiques, et notamment la critique qu'a publiée la revue Théâtre Populaire, où il m'était reproché que les soldats français volontaires pour être dans le corps expéditionnaire de l'ONU en Corée, que ces soldats avaient quelque chose de sympathique. Et Barthes dit dans cet article, on vous reproche d'avoir innocenté les soldats, de ne pas les avoir jugés. Or, est-ce que on ne devrait pas plutôt se poser la question sur le plan politique, est-ce que on n'est pas plus efficace si on constate et non pas dénonce.
Dans Les Coréens, si vous le voulez bien, premier extrait de vos pièces qu'on va entendre dans cette émission, on va garder l'exaltation du commerce que fait dans un village qui vient d'être bombardé un vendeur qui surgit avec son riz. Écoutez bien, c'est une représentation pour la radio par les comédiens français. C'est assez formidable pour la prise de son. avec Georges Gravier aux manettes.
Sur la place du village, la population de Wuhan est rassemblée là dans un état de grande excitation.
Étonnement, le quart d'une poignée, le quart d'une poignée.
Voyez comme il est long, voyez comme il est blanc.
Avant même que vienne la guerre, jamais je n'en ai vu de si blanc.
Il doit venir de loin.
Combien est-ce qu'il a dit ?
$1 la livre ou 500 yens la poignée.
$1 la livre ? Mais marchand, d'où aurions-nous des dollars ?
Mais 500, marchand, crois-tu que c'est un prix honnête ? Avec 500 yens, on pouvait en acheter 50 et 60 livres.
Honnête, honnête ! Oh là, faites-moi place ! Je sens que je perds mon temps ici.
Ne le laissez pas partir. Ne le laissez pas partir.
Écoutez-moi, mon vieux bonhomme. Et réponds-moi. Quand est-ce qu'on pouvait en acheter 50 et 60 livres pour 500 yens, hein? Quand ça?
Avant que la guerre vienne.
Vous avez bien entendu, hein? Avant que la guerre vienne.
Tout ce rime fait mal aux yeux et cet homme me fait mal au cœur.
$1 la livre, $1. Oh, faites-moi place, je sens que je vais m'en aller.
Ne le laissez pas partir. Ne le laissez pas partir.
Mais petite mère, où prendrions-nous l'argent?
On sent quand même vos détracteurs, disciples de Brecht, les rédacteurs de théâtre populaire avaient raison. On sent quand même que le commerce, ça vous fait vibrer.
Je dirais que dans cette scène, ce qui me fait vibrer davantage, c'est le pouvoir onirique de la marchandise. Ce qui est vécu là comme pas du vrai riz, c'est pas vrai, mais un riz rêvé, un riz comme il n'en existe pas dans le monde réel. Et ce passage dans la pièce présente combien la frontière est poreuse entre le rêve et la réalité.
Oui, mais la jactance du personnage.
Oui,
la jactance. L'emphase dans les mots.
Oui, alors lui, c'est un bonimenteur comme j'ai toujours souhaité en avoir quand je travaillais chez Gillette pour donner ce qui, à cette époque-là, ne s'appelait pas encore le marketing.
Comment étiez-vous quand on vous présentait des campagnes de publicité? Comment jugiez-vous? Comment réagissiez-vous? Que demandiez-vous?
D'abord, j'adorais cet aspect de mon travail qui se rapprochait beaucoup de l'écriture dramatique. Puisque quand on écrit pour le théâtre, il y a quelque part en vous qui est en attente de qu'est-ce qui va se passer du point de vue de la réception de ce qu'on écrit. On est dans un échange un petit peu commercial, même si on est par ailleurs dans une réflexion sur le monde ou sur, disons, une action qui est de l'ordre poétique.
Alors vous vendiez des produits triviaux, des rasoirs jetables, à obsolescence programmée, enfin, très évidente. Vous aimez bien d'ailleurs les produits un peu triviaux. On parlera tout à l'heure de L'Oréal, Bettencourt Boulevard, que vous représentez actuellement à la Colline. Mais ici, c'est un extrait d'une pièce beaucoup plus ancienne, à la renverse. Nous sommes dans une société de produits solaires, Bronzex S.A.
Il y a le plan sexuel. L'acte de bronzer consiste à laisser le soleil entrer en vous. Il le fait de façon non aiguë, mais diffuse, enclenchant un plaisir non culpabilisant, apaisant.
28 degrés à l'ombre.
Non culpabilisant, apaisant.
On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.
Troisièmement, le plaisir mystique. Le sujet, dans l'acte de bronzer, incorpore les forces cosmiques qui lui sont bénéfiques. C'est le sentiment de faire un avec le grand tout qui peut aller jusqu'à l'extase.
Le grand tout, l'extase.
Enfin, le plaisir est social. Pour autant que le sujet bronzant se valorise sous le regard de l'autre par référence à un commun idéal.
Commun.
Pas de plaisir qui n'engendre la peur. Brûlure, insolation, peur de la plaque rouge hideuse et de la cloque dont on a honte. Peur de la peau qui pèle, cette peur est essentielle. Encore faut-il qu'elle ne fasse qu'affleurer, légère, loin à l'horizon.
28 degrés à l'ombre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Il fait encore plus chaud.
Avec Michel Villavert, grand auteur de théâtre, notre réalisateur Jacques Cigale a beaucoup pratiqué, comme vous, la publicité. Et il sait ce qui est efficace, donc il s'est permis de mélanger avec le texte de votre pièce « À la renverse » les paroles d'un grand auteur, lui aussi, qui s'appelle Jean-François Maurice. C'est lui aussi, j'imagine, qui chantait. Vous nous pardonnez, Michel Villavert, cette bonne guerre.
Ah, c'est bien intéressant, au contraire, oui.
Pourquoi ?
Dans l'écriture, je fais du tressage. J'aime beaucoup prendre une fibre, une autre fibre, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et puis de voir qu'est-ce qui se passe quand on les met en lien, c'est ça.
Dites-moi, il y a un avertissement quand même à la fin du texte relatif au devenir de la société Bronzex SA que vous avez imaginé. Les brûlures, les risques. Vous aimez représenter des sociétés en crise. Bronzex SA va connaître la crise parce que sur les écrans de télévision, une princesse va venir expliquer que les produits solaires sont dangereux pour la peau.
La crise, c'est la vie quotidienne dans une entreprise. On est toujours à essayer de réparer les dégâts ou au contraire de prévenir ceux qu'on peut supposer à l'horizon. Ce qu'on peut appeler l'imprévisible. Là aussi, je dirais qu'il y a une relation avec l'écriture dramatique. Le théâtre advient lorsque quelque chose ne va pas.
On peut prendre quelques exemples de sociétés en crise que vous observez. Pardonnez-nous, chers auditeurs, une entreprise de PQ. Alors ça vous passionne. Une entreprise de papier hygiénique qui doit passer du vieux papier gris d'autrefois. Souvenez-vous, chers auditeurs d'âge ancien, au papier de ouate cellulosé. Voilà un grand sujet, mais qui est porteur de beaucoup de risques, parce qu'il faut investir. Des fonds vont pouvoir survenir, qui vont être capables d'investir ce qu'une entreprise familiale de PQ ne sait pas faire.
Et un risque supplémentaire, c'est que l'entreprise est française, et c'est d'Amérique que vient le danger, avec une entreprise hyper technique, avec des épaules 100 fois plus larges. Donc, crise et effectivement bouleversement dans l'entreprise française. C'est le pouvoir qui échappe aux fondateurs pour être saisi par le bâtard, le fils bâtard. Donc, crise et soubresaut.
Dites-moi vous-même, 23 ans chez Gillette, avez-vous connu des périodes difficiles à la fin de votre cycle de présidence ?
Oh, certes, les moments difficiles ont été notamment ceux où ma gestion a été contestée, où j'ai senti que il fallait que j'aille peut-être voir ailleurs. Et puis, les renversements allaient également dans l'autre sens, et au moment où je pensais que la hache tomberait, voilà tout d'un coup que la même entreprise me propose un job plus important que celui que j'ai. Pourquoi ? Parce que bon, il y a eu quelque part dans les nuées, là où les patrons siègent et demeurent, un changement dans la composition de l'équipe.
Oui, là où sont les titans et les géants.
Oui.
Parce que vous aimez bien utiliser le vocabulaire mythologique. Mais en clair, vous avez connu des grèves ?
Oui. J'ai même connu une grève très dure lorsque j'étais à la tête d'une entreprise qui s'appelle ST Dupont, les briquets.
Ah ben là, c'est très chic.
C'est une entreprise qui a été rachetée par Gillette. D'ailleurs, c'est moi qui ai mis Gillette sur cette piste-là. Ce changement de propriétaire n'a pas été apprécié. Il y a eu comme une espèce de crise existentielle. Celle-ci a débouché sur une grève.
Ben, il faut comprendre, ST Dupont, le durable, racheté par le jetable.
Mais il faut dire que Dupont, qui était effectivement une marque, qui le reste d'ailleurs, une marque de briquet de grand luxe, avait aussi été à l'origine du briquet jetable avec le cricket.
Je vous vois extrêmement spécialiste. Je suis incapable de vous suivre longtemps sur ce terrain. Vous avez vu, après avoir quitté l'entreprise, être devenu professeur d'université, pris du recul, vous avez vu l'horizon de l'illimité, qui était celui du capitalisme, changer. Vous avez vu gagner la crise de l'emploi,
Et vous avez d'ailleurs décrit ça fort bien dans une émission de télévision. L'émission de télévision, c'est le titre d'une pièce de théâtre racontée.
Cette pièce met en scène un cadre qui est éjecté, approché par une chaîne de télévision pour figurer comme le héros d'une émission. C'était au début des émissions de
télé-réalité.
Oui, on peut dire de télé-réalité.
C'est la pré-télé-réalité.
Oui.
88.
C'est ça. Et alors ce cadre qui est invité à témoigner de sa réussite pour trouver un nouvel emploi est en fait écrasé par la façon dont cette émission est conçue, qui est humiliante plus encore que d'avoir été virée.
Je vais vous faire écouter maintenant le pilote d'une émission qui a tenté de s'imposer sur la chaîne préférée des Français, paraît-il, M6, et qui est imité d'un concept de Donald Trump aux États-Unis. Ça s'appelle The Apprentice, un patron recrute. Et c'est un vrai patron dont on va entendre le nom, qui a été embauché par M6 pour décider de l'embauche de jeunes impétrants.
Aujourd'hui, je recherche un directeur du développement commercial. Nous allons lancer dans les tout prochains mois un produit révolutionnaire dans le domaine de la télécommunication. Et pour ce produit, on a besoin de quelqu'un qui est capable de le comprendre et de transmettre à une équipe commerciale cette capacité à le vendre. S'ils ne voulaient pas de compétition, il ne fallait pas postuler, ils ne sont pas au bon endroit. Ne me décevez pas.
Je trouve Bruno Bonnel très impressionnant.
Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile.
Je l'ai trouvé un peu dur, mais je pense qu'il était dans son rôle en tant que patron de tout de suite montrer que c'est lui qui fixe les règles.
Ne me sous-estimez pas.
Je trouve Bruno Bonnel très charismatique.
Je recrute au mérite.
Il parle peu, mais quand il parle, c'est direct.
Vous m'avez fait perdre de l'argent. Et je déteste ça. Vous ne ferez pas partie de mon équipe.
The Apprentice, qui décrochera le job mercredi 9 septembre à 20h55 sur M6.
Eh bien, l'émission n'a pas marché. Bruno Bonnel a déplu aux téléspectateurs et il a été éjecté. L'émission a été déprogrammée au bout de 2 ou 3 épisodes, je crois. Ce qui veut dire que quand même, le chef d'entreprise n'a pas nécessairement une vie plus difficile que celle du salarié. Les salariés ne sont pas convaincus de ça en France, en tout cas.
Oui. Je n'ai pas éprouvé de situation comparable à celle-ci dans mon parcours. Je parlais de cette sensation d'être dans une église quand j'étais dans une entreprise. L'église s'est fracassée à partir du moment où Gillette a été repris par Procter & Gamble. Est devenue une division du lessivier avec, on peut dire, fracassement, non, c'est pas le mot, démolition de ce que l'entreprise considérait comme sa culture. Voilà, le genre de violence auquel une entreprise et donc les gens qui travaillent dedans sont soumis.
Bettencourt Boulevard se joue au Théâtre de la Colline à Paris dans une mise en scène de Christian Schiaretti. C'est votre dernière pièce, enfin la dernière que vous ayez écrite, on en attend évidemment d'autres, Michel Vinavert. C'est une société en crise qui est peinte. Nous sommes dans un hôtel particulier de Neuilly, dans lequel tournent des vents contraires. Une histoire d'amitié, d'amour a lieu entre la propriétaire, Francine Berger, dans la mise en scène, et le vibrant photographe François-Marie Beignet, interprété par Didier Flamand.
Je la veux, cette photo, absolument. André ne comprend pas que vos photos que j'achète sont de celles qui donnent à désespérer de l'humanité. Votre art est de transmuter le plomb en or.
Comme a fait votre père.
Dans son domaine, oui. En affaire, papa a été un immense artiste. Il créait comme il respirait. Rien ne le faisait reculer. Il m'arrive de penser que vous êtes un peu son fils.
La France et les Français. Régénérer racialement la France et les Français. La nouvelle Europe national-socialiste libérée du judaïsme, du bolchevisme et de la franc-maçonnerie. Plus de crise, plus de craques, le salaire devenu proportionnel donnant un sens à la vie des ouvriers. plus de syndicats, à quoi servirait-il ?
Soudain, dans cette société de Neuilly que vous décrivez à votre façon habituelle, ironique, avec des tressages et des collages, apparaît en arrière-plan l'histoire plus ancienne. La voix qu'on a entendue là, c'est celle de Michel Aumont, qui interprète Eugène Schweller, le père de Liliane Bettencourt, et qui fut un des hommes du MSR, Mouvement Social Révolutionnaire, Mouvement Collaborationniste, que vous traduisez par M et SER, c'est sa devise.
C'est Schweller lui-même qui aimait, dans des réunions publiques, prononcer, comme vous venez de le faire, le M, S et SER. C'était la combinaison de sa conviction politique et puis du sens commercial qu'il avait.
Alors c'est un personnage fondamental, ainsi que son symétrique, dans la construction de votre pièce. Il ne s'agit pas seulement d'une chronique de l'actualité, vous lui donnez une profondeur tragique, parce qu'il y a le vieux Eugène Schweller dans l'ombre, et puis le symétrique, eh bien, c'est un rabbin avec les descendants duquel la famille Bettencourt, contrainte et forcée, a bien dû s'allier.
Effectivement, le rabbin Robert Meyers, qui était très apprécié, même au-delà de la communauté juive, De Gaulle a voulu le faire passer à Londres. Il a refusé de partir à Londres pour rester dans ce qu'il considérait être son devoir auprès de ses coreligionnaires. C'est ainsi que lui et sa femme ont été envoyés à Auschwitz pour y trouver leur fin. Eh bien, disons la malice du destin, mais peut-être qu'il y a plus que de la malice, est que le petit-fils de ce rabbin est devenu le mari de la fille de Schweller. Il y a donc là un écart maximum et une jonction scandaleuse entre le tenant de l'antisémitisme et de l'extrême droite en France, d'une part, et d'autre part, le peuple juif, à ce moment-là, proie de ce qu'avait décidé le nazisme. C'est une jonction familiale. C'est cela qui m'a beaucoup intéressé. C'est que les deux enfants de Françoise Meyers Bettencourt sont le produit de ces deux généalogies. Il y a là tous les éléments d'une tragédie. La pièce n'est pas une tragédie elle-même. Elle contient des éléments de tragique, mais je dirais que la pièce est beaucoup plus une comédie. Et une comédie, c'est toujours plus pessimiste qu'une tragédie.
Vous êtes un auteur grec. Vous citez les géants, les titans, les personnages de la mythologie. Ces deux grands personnages historiques, symétriques, y appartiennent. Mais vous citez aussi Aristophane.
Certes, oui. On trouve chez Aristophane l'équivalent des maîtres des Werther et autres personnages bagnés qui peuplent nos chroniques journalistiques aujourd'hui. Aristophane, c'est aussi un théâtre de liberté.
Et un théâtre pour la cité tout entière. C'est ce que vous faites fort bien depuis 50 ans, Michel Vinaver. Votre dernière pièce, Bettencourt Boulevard, encore pendant 2 semaines jusqu'au 14 février à Paris, dans le 20e arrondissement au Théâtre de la Colline. Et puis Michel Vinaver, c'est un auteur qui peut se lire aux éditions Actes Sud et aux éditions de l'Arche conjointe. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco, à la réalisation Jacques Sigal, la technique Florent Beauvallet.